Nous poursuivons donc l'octave de Noël avec tout d'abord la lecture de l'épître de Saint Jean que nous allons entendre assez longtemps pendant le temps de Noël, avec Jean qui s'adresse à deux auditoires, semble-t-il. Je vous l'ai dit enfant, je vous l'ai dit ancien, etc. Bon. À la fois des jeunes et des anciens, donc. On peut peut-être imaginer que, enfin, c'est ce qui m'est venu en tout cas, que les anciens sont des juifs, des hébreux, auxquels Jean s'adresse pour leur dire, voilà, celui que nous avons vu, il était là dès le commencement. C'est lui que vous serviez sans le connaître. Et il dit aux jeunes un message un peu différent qui est vos péchés sont remis. Je pense qu'il s'adresse peut-être à des gens qui ne sont pas des Hébreux ou des nouveaux croyants, disons. Bon, un petit peu un anachronisme avec ce terme, mais de jeunes convertis. Qu'il encourage. À la fois, il encourage les jeunes pour leur dire « Allez-y, n'ayez pas peur », et à la fois, il dit aux anciens « Attendez, la religion n'a pas changé. Nous venons juste de passer une étape de révélation. » Avec un message, un double message, d'une part la victoire. C'est ce Dieu qui nous a obtenu la victoire, qui nous a sauvés. Nos péchés sont remis. Enfin, tout ce que nous pouvons retrouver, il a vaincu le mauvais. Nous avons vaincu le mauvais en lui. La parole de Dieu demeure en nous. Enfin voilà, vous voyez, reviennent deux fois l'idée d'avoir vaincu le mauvais pour les jeunes gens et deux fois l'idée de connaître Dieu depuis le commencement. Vous voyez, c'est important pour nous parce qu'il y a toujours ces deux fils, l'ancien et le nouveau, etc. C'est très très fréquent dans le... Nous avons beaucoup ça dans l'Ancien Testament. Le nouveau peuple, les païens et les convertis, ceux qui... Voilà. Et puis les anciens. C'est important d'avoir ça à l'esprit. Et alors le deuxième message, c'est attention. Attention... attention à l'esprit mondain, comme dirait le pape François, attention à cette fascination pour le pouvoir, pour le monde, pour la gloire, l'orgueil, tout ce qu'on veut. Ça n'est pas Dieu. Ça brille, mais ça n'est pas Dieu. Donc Jean vient là mettre en garde, encourager à la fois, et puis mettre en garde. Voilà, nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu et que c'est pas quelque chose de... Enfin, c'est quelque chose de passif dans le sens où ça nous est donné, mais c'est l'objet d'un combat pour demeurer dans cette filiation tant que nous sommes dans ce monde. Et que nous pouvons perdre... pouvons perdre quelque chose dans le monde. Alors dans l'évangile, nous avons aussi ces deux idées d'ancien et de nouveau. L'ancien est donc figuré par cette femme, Anne. Anne qui est donc... Alors c'est tout à fait intéressant, hein, parce que Anne, c'est la fille de Phanuel. Phanuel, ça veut dire visage de Dieu. C'est celle qui cherchait le visage de Dieu. Elle est de cette d'un père qui porte ce nom de visage de Dieu. Donc, on pourrait dire qu'elle est la fille du visage de Dieu. C'est tout à fait intéressant. de voir que cette femme, elle est seule, elle est veuve, donc elle est vit dans la solitude, et qu'elle a choisi de se consacrer à Dieu. Elle a choisi de passer de la vie normale d'une épouse qui aurait pu se remarier à une consécration. C'est un peu le... je sais pas comment dire, c'est un peu l'ordre des veuves qui fait ses débuts, si vous voulez. Même s'il y a d'autres visages dans l'Ancien Testament, hein, de veuves, comme Judith, si je ne m'abuse. Et voilà, donc c'est très important parce que l'évangile selon Jean, donc là nous n'avons ni l'évangile, nous n'avons pas l'évangile, hein, nous avons l'épître et l'évangile selon Luc. Dans l'évangile selon Jean, Jésus passe son temps à nous montrer le Père, à nous parler du Père. C'est assez bouleversant dans Saint Jean. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Je fais la volonté de mon Père, etc., etc., toujours à l'œuvre. Mon Père, mon Père, mon Père. Et là, nous trouvons une femme qui renvoie au visage de Dieu, donc du Père. Et au fond, la première lecture nous demandait de connaître le Père. Nous disait, il faut connaître Dieu le Père, celui qui est depuis le commencement. Voilà. Donc je reviens à l'évangile. Elle est seule, elle est consacrée à Dieu et elle ne vit pas dans le monde. Et nous avons autre chose qui est importante, qui pourrait passer inaperçue. Elle est fille de Phanuel de la tribu de Aser, ou bien Asher. Alors c'est quoi la tribu de Asher? C'est une tribu de Jacob. Mais c'est quoi ce mot Asher? Ça veut dire quoi? Asher, ça veut dire bienheureux. C'est le premier mot du premier psaume. Asher Eish, Asher lo alar, alar. Be'atzat Rechaim. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans la voie des méchants. C'est tout à fait intéressant, vous voyez, parce que ça rejoint la première lecture. Ne vivez pas selon le monde. Le monde étant ici un visage négatif. Il ne s'agit pas du monde tel que Dieu l'a créé. Vous voyez, c'est le monde tel que l'homme sans Dieu le produit, évolue dans ce monde, quoi. Donc voilà, c'est l'occasion peut-être pour vous de relire le psaume premier. J'étais regardé, ce n'est pas le psaume qui est mis entre les deux lectures, c'est très bien, mais ça peut être l'occasion pour nous de lire ce psaume, qui est assez merveilleux. Ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, et murmure sa loi jour et nuit. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans l'Évangile? Servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Vous voyez, je crois que ce psaume, ça nous renvoie vraiment à ce psaume, quoi. Et qu'est-ce qui se passe pour celui qui vit comme ça? Mais il est comme un arbre planté près du ruisseau, qui donne son fruit en sa saison. En latin, il y a écrit in tempore suo, en son temps. Au moment où c'est son heure, eh bien là c'est l'heure de Anne. Elle donne son fruit. C'est une prophétie. Vous voyez comme c'est bouleversant. Alors ça nous rejoint énormément, vous comprenez? Parce que ça veut dire que qu'en vivant de tout notre cœur selon Dieu, nous donnons un fruit. Peut-être nous ne le verrons pas, hein, mais nous le donnons. Donc je disais tout à l'heure que il y avait l'Ancien dans le Nouveau Testament. Et puis il y a le nouveau. Ben, le nouveau, c'est Jésus. Le nouveau, c'est aussi la Vierge Marie. Le nouveau, c'est donc la Sainte Famille que nous fêtions hier. Et cet enfant qui est Dieu, et qui est justement le visage de Dieu. Vous voyez, comme c'est impressionnant, c'est que cette femme, Elle est donc la fille du visage de Dieu et elle voit le visage de Dieu. Elle voit l'enfant. Voilà, c'est assez bouleversant. Cet évangile de... Moi, je ne veux pas être gentil, je veux dire cet évangile de rien du tout. Vous voyez, on a l'air de dire, bon, voilà. Mais il est bourré de renvois à des choses extraordinaires, quoi. Voilà, vous voyez, c'est vraiment un enfant qui ne peut pas parler. Infant, ça veut dire qu'il ne peut pas parler, qui n'a pas de voix. Et sans voix. Et voilà. Ben, c'est une femme qui prend la parole et c'est donc l'Ancien Testament qui annonce le nouveau. Ça peut aussi nous parler à nous, pour ceux qui sont un peu has-been, hein, qui commencent à avoir l'âge de se dire vraiment cette jeunesse, elle est curieuse, de se dire, eh oui, eh oui. Mais c'est peut-être aussi ce que se disaient les gens quand Jésus est apparu pour sa vie publique. C'est qui celui-là? C'est qui ce genou là? Bon. Autrement dit, il ne s'agit pas de voir dans les jeunes une annonce messianique nécessairement, mais d'y regarder à plusieurs fois, de se poser des questions, de se demander. Vous voyez, alors je ne vais pas parler d'un jeune parce que je vais parler du pape. Bon, il y a des gens pour lesquels la manière de parler du pape est difficile. Alors qu'en fait, on a un des papes les plus jeunes qu'on ait jamais eu. Il est proche du peuple, proche des gens. C'est un des premiers papes d'après-guerre qui ait été archevêque, qui ait vécu dans une paroisse. Alors Jean-Paul II aussi, hein, on est d'accord. Mais Jean-Paul II, c'était dans une circonstance très particulière, dans un milieu, une époque de communisme, etc. Là, on a un pape qui a été évêque d'un diocèse pendant des années, qui connaît les gens, qui allait au-devant des gens, qui dit souvent qu'il essayait de les rencontrer. Et cette manière d'aller regarder la jeunesse, d'aller regarder le monde d'aujourd'hui tel qu'il est, pour voir ce qu'il nous apporte, pour voir ce qu'il apporte, comment il le renouvelle à la parole de Dieu. Et comment les plus anciens peuvent être là précisément pour sécuriser, pour rassurer, pour transmettre un monde qui n'a pas toujours reçu, mais où l'Esprit-Saint ne chôme pas. Voilà, bon, c'est une exégèse un peu libre de ma part, mais c'est ce que le Saint-Esprit me donne, donc je vous le transmets. Voilà, donc n'hésitez pas à relire... le psaume 1, je vous signale aussi qu'originellement, le psaume 1 et 2 ne faisaient qu'un seul psaume. Et donc, n'hésitez pas à aller au deuxième. Le deuxième psaume s'intitule « Le drame messianique ». Allez. C'est une préface morale et messianique du psautier. Voilà, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et qui ont le temps d'aller un peu plus loin.